Bonjour, merci de nous accueillir et d'accueillir aussi notre invité. Il était à peu près temps. Ça fait 3 ans qu'on appelait régulièrement chez lui. La plupart du temps, il n'était pas là. Daniel Lavoie, bonjour.
Bonjour, Michel.
Ne prenez pas ça comme un reproche.
Je ne prends pas ça pour un reproche. Je prends ça comme la télévision. Ben, c'est pas vrai que tu as appelé chez nous.
Oui.
C'est vrai?
Oui.
Ah, ouais, ah bon.
Okay. Hemingford, dans ce coin-là.
Oui. D'accord.
Voulez-vous que je vous dise qu'est-ce que c'est le répondeur?
Oui.
Non, ça, je ne ferai pas ça à la télé, par exemple. Mais il faut dire que depuis 3 ans, la vie vous a promené un
j'ai
peu.
J'ai promené là. Beaucoup, oui, mais j'ai quand même fait presque une année et demie pour écrire cet album-là, 2 ans. Et puis bon, j'admets que je ne répondais pas beaucoup au téléphone.
Vous avez besoin de ça pour écrire, une espèce de
silence.
Silence, oui. Solitude.
Ben, solitude, oui. C'est certain que j'ai besoin de m'éloigner de tout le monde puis de me recueillir avec mon moi-même.
Oui. Est-ce que quand on parle de solitude, ça inclut aussi, par exemple, votre conjointe?
Ben oui.
C'est le vide total autour de vous, là.
Ben, presque vide total. Quand j'écris, oui, il faut absolument qu'il y ait un recueillement parce que je plonge à l'intérieur et j'essaie de sortir des choses que je n'ai jamais sorties. Puis ça prend pas trop de distraction, à part mon jardin, évidemment.
Oui.
Mon jardin, puis quelques amis de temps à autre,
non,
un peu de téléphone.
Non,
pas trop souvent le téléphone.
Non,
non. Les instructions sont très nettes. On répond pas au téléphone entre midi et 5 heures, par
exemple. Est-ce qu'il y a des endroits qui vous inspirent pour écrire? Que ce soit parole, que ce soit musique.
Oh, des endroits... Il y a des endroits qui... Non, c'est le monde qui m'inspire. Les endroits qui m'inspirent, c'est le monde qui m'inspire. Les gens. Les gens. C'est les gens qui me touchent.
Les gens de la rue ou des gens
partout,
que...
Partout. Les gens que je connais, les gens de la rue, les gens que je croise, les gens que je regarde vivre, parfois à la télévision, même si je ne suis pas très téléphage. Moi, c'est les gens qui m'inspirent. C'est les gens qui me touchent.
Vous n'êtes pas sans savoir que vos chansons aussi inspirent.
Ben, j'espère bien. C'est pour ça que je les fais. Si mes chansons laissaient les gens indifférents, je serais bien désolé, bien triste.
Ah, que non, mon Seigneur, que vos chansons ne laissent pas les gens indifférents.
Ben, vous me rassurez,
Michel. En tout cas, pas moi. Pour une raison bien particulière, je ne sais pas si vous allez vous en rappeler, il n'y a pas beaucoup de monde dans leur vie qui reçoivent une chanson en cadeau.
Ah bon?
Et vous m'en avez offert une chanson en cadeau lors de l'émission de mes 38 ans.
Et c'était la première fois que je la chantais?
C'était la première fois que vous la cassiez à mon émission. Et vous aviez dit, avant de commencer, vous étiez au piano, il y avait des musiciens autour de vous, et en jouant l'intro, vous aviez dit, c'est la première fois, je l'ai faite pour toi, Michel, et je te la donne.
Avoir su, Michel, j'aurais attendu pour venir présenter Dr. Tendresse à ton émission, parce que Il s'aime a été quand même pour moi un immense succès, qui se maintient d'ailleurs.
Me permettez-vous un souvenir?
Ben, écoute, même si je vous le permettais pas, je suis certain que vous le sortiriez quand même. Allons-y.
Ben non, on va attendre que vous soyez parti, puis on va passer le souvenir.
Allons-y,
ça passera dans le beurre.
Je veux voir.
Vous voulez voir? Moi, je veux me rappeler.
D'accord.
Surtout, et entendre cette chanson-là.
C'est vrai que ça commence.
Ah, ouais.
J'étais bien jeune, hein?
Mais nous le sommes toujours bien jeunes, mon cher Daniel.
Oui, mais je regarde. Je suis un peu plus imberbe que je le suis maintenant.
Alors, on l'est tous un peu, à quelques mois de différence.
Oui, voilà.
Mais ça, je tenais absolument à vous le rappeler et surtout à dire à tout le monde à quel point c'est extraordinaire de se faire donner une chanson. Parce que quand vous l'avez jouée ce soir-là, le 13 août, on va laisser faire l'année, vous ne saviez pas ce qu'elle allait devenir.
Ah non, je ne savais pas. J'avais aucune idée. Même, je te dirais que cette chanson-là, c'est une chanson que je ne voulais pas mettre sur mon album.
Ah, c'est pour ça que vous me la donniez en cadeau.
Non, mais c'est parce que je la considérais tellement intime et tellement...
Oui.
Je trouvais pas que c'était une chanson qui pouvait marcher. Il n'y avait pas de refrain. Il y avait... C'est
non,
pas
mais le message, Daniel, qu'il y a
ben
dans
oui.
cette chanson-là...
Écoute, le temps te oh. donne raison, hein, c'est sûr.
Oui, ben non, vous donne
m'a
raison.
Donné raison. Parce que, oui, m'a donné raison.
Est-ce que je me trompe ou en France... Cette chanson-là a été votée l'une des 25 plus belles chansons du dernier siècle.
Écoute, oui, tu te trompes pas.
Me
tu
trompe
te trompes pas.
Pas.
C'est vrai. Écoute, ils aiment cette chanson-là. Remarque, c'est des votes, hein. Et ils vont voter l'an prochain pour autre chose. Mais quand même, après 20 quelques
oui.
années, cette chanson-là est encore tellement présente chez mes amis français
oui.
qu'ils la votent comme une de leurs chansons préférées de tous les temps. Ça fait du bien à l'auteur-compositeur, ça.
Ben oui, puis oui. ça veut dire que vous êtes pas loin dans leur cœur aussi.
Je crois. C'est comme j'ai fait une marque indélébile dans leur cœur et ça, c'est qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'on veut de plus quand on écrit des chansons?
Est-ce que cette affection-là avec nos amis français, est-ce que vous l'entretenez? Est-ce que, bon, il y a eu Notre-Dame de Paris.
Ça a pas fait de mal.
Ça a pas fait de mal.
Non.
500 fois à peu près?
500 fois en France, mais quand je dis 7 millions d'albums vendus,
oui.
3,5 millions de singles, de belles vendues,
oui.
c'est quand même, on a touché beaucoup de monde avec ce disque.
Oui, on peut faire de l'horticulture un petit bout de temps.
Ben oui, je veux dire, j'aurais aimé être le producteur de ce disque parce que lui, il a ramassé. On n'a pas fait pitié, cela dit.
Me trompais-je?
Tu veux dire, me trompe-je?
Me trompe-je?
Oui.
Oui, ça, je trouvais que ça sonnait mal.
Oui, je trouvais. Mais...
Vous aussi. Bon, là, j'ai perdu le fil. Je ne sais plus où ce que je me... Je sais plus
si
je me trompais.
Si je peux te faire perdre le fil, Michel.
Non. Est-ce que je fais erreur si j'ai l'impression qu'entre celui-là et l'autre qui a précédé, qui était...
Comédie humaine,
oui. Ouais. Il y a eu un congé que vous avez pris.
Dans le sens...
Qui est pas sorti beaucoup de choses en 3 ans.
En 3 ans, ben non, mais j'étais en tournée.
Oui.
J'étais en tournée, j'ai fait beaucoup, beaucoup de spectacles, autant au Québec qu'en France.
Oui.
Puis après, je me suis consacré à l'écriture. Et puis, voilà, 3 ans, c'est vite passé à nos âges.
Vous êtes-vous à nos âges?
Vous... Je te fais réagir à chaque fois.
Et que je la retiens, c'est vrai.
Oui.
Alors, je vous en dois une.
D'accord.
Est-ce que ces 3 années-là où vous
oui.
avez été principalement chanteur,
oui.
Vous avez peut-être écrit, mais pas beaucoup. Est-ce que ça a fait du bien à l'auteur-compositeur?
Est-ce que vous êtes en train de parler des années Notre-Dame de Paris? Là,
entre autres, oui.
Ah, bien ça, c'est avant. Ça, c'est avant. C'était pas 3 ans, c'était presque 8 ans.
Alors, 3 ans, c'était quoi?
Tu vois,
c'est
encore pire que tu pensais.
C'était quoi, 3 ans? C'était le petit...
3 ans, c'est entre mon dernier album, qui s'appelait Comédie humaine, et celui-ci, il y a
eu
3 ans.
Ouais.
Ça, c'est pas grand-chose. Mais entre celui qu'il y avait eu avant, qui s'appelait Ici,
ouais.
et Comédie humaine, il y a eu presque 10 ans, je dirais. Et là, j'en ai fait des choses, c'est
bon.
Vrai.
Alors, pourquoi 10 ans?
Ben, parce que j'étais occupé à faire Notre-Dame de Paris, entre autres, qui m'a pris
ouais.
presque 4 ans et demi. Et après, j'ai écrit des chansons pour les autres. Et puis
ouais.
après, j'ai fait Le Petit Prince à Paris pendant 1 année.
Oui.
Et puis, après ça, ben, j'ai fait mon album après.
Il
y a eu des grands bouts. Oui.
Il faut peut-être rappeler que Le Petit Prince, c'est vous qui l'avez fait à Paris.
Oui.
Et c'est Michel Rivard.
Michel Rivard qui l'a fait au Québec.
Qui l'a fait
oui.
au Québec.
Oui.
C'était des empêchements?
C'était pas ça. C'est que Le Petit Prince continuait à Paris en même temps qu'il était présenté au Québec. Donc, je ne pouvais pas être aux deux endroits en même temps. Et puis, je trouvais que Michel pouvait faire une très bonne job.
Tout à fait.
Oui.
Qu'est-ce que ces expériences-là de Notre-Dame de Paris, du Petit Prince, qu'est-ce que ça vous a apporté finalement, à part de l'aspect financier dont vous parliez tantôt?
Ben, ça m'a, je pense, redonné confiance en moi. Ça m'a.
À quel niveau?
Ça m'a permis de sortir un peu plus que je sortais de moi-même. Parce que je me souviens que dans les interviews où on se parlait, toi et moi, Michel, j'avais tendance à dire oui et non souvent.
Ça arrivait.
Et je parlais pas beaucoup. D'ailleurs, les gens disaient, la voix, quand tu l'amènes à l'interview, il dit pas grand-chose. Tu as intérêt à avoir beaucoup de questions, de oui, de non. Maintenant, je suis capable de t'arrêter de parler pendant un autre 5-10 minutes, si tu veux, puis de pas te laisser te poser une seule question. J'ai découvert que je peux parler. Avant, je parlais pas.
Mais est-ce que vous aimez ça, parler? Moi, j'aime que vous parliez, en tout cas, parce qu'il y a l'invité qui est assis là, et non, pourquoi pas, c'est embêtant.
Je sais pas, moi, les gens qui parlent trop, des fois, ça me fatigue, donc je dis peut-être que je parle trop, les gens, je les fatigue, mais c'est certain que j'arrive au moins à m'exprimer mieux qu'avant, et j'ai appris ça probablement à passer 10 ans chez les Français, on va dire une affaire, si t'apprends pas à parler... Parce que les autres, ils parlent beaucoup.
Il faut d'abord apprendre à écouter, d'abord.
Oui. Les premiers... J'ai appris à parler français, d'abord.
Parce les deux, trois premières années. Il y a eu quelques revers.
Ça prend des revers dans une vie. Hein. On ne peut pas juste être en haut. Il y a juste Céline qui est tout le temps là. Elle n'a pas beaucoup de revers.
Mais... Croyez-moi, elle a des revers.
C'est vrai. Elle les cache mieux que nous.
Oui, peut-être.
Oui, non, mais c'était un joke.
Oui.
Dans le sens que les carrières en dentiste, c'est assez habituel. Et moi, j'ai eu quelques bas, effectivement. Le fond de la dentiste, je l'ai connu quelquefois.
Oui.
Qu'est-ce qui va me sortir?
Vous êtes inspiré, d'ailleurs, pour une de vos chansons.
Ah oui?
D'une phrase de Léo Ferré.
Ah, quelle jolie phrase.
Quelle jolie phrase qui dit « N'oublie pas que le chagrin... » n'est que le bonheur qui se repose.
C'est pas beau, ça.
C'est absolument magnifique. Oui. À toute personne aujourd'hui qui nous écoute et qui nous regarde, faut que cette phrase-là soit la phrase de votre journée.
Ben écoute, c'est un peu l'inspiration de tout mon album. Parce que j'ai fait un album très optimiste. Et gardant toujours en tête cette histoire que le chagrin n'est que le bonheur qui se repose. Donc, quand je parle de choses dures sur l'album, il y a toujours le bonheur qui arrive à la fin et qui dit « OK, j'ai fini mon somme, je suis prêt à partir. »
C'est arrivé comme ça dans votre vraie vie?
J'ai choisi que ce soit comme ça. Je pense qu'on choisit un jour de refuser d'être malheureux tout le temps. Je pense que c'est un choix.
Mais c'est pas toujours que vous avez fait
non, c'est pas toujours, c'est pas toujours facile, puis c'est pas toujours, il y a toujours des coups durs, puis la vie est faite de coups durs, mais je me rends compte que quand on a une petite note d'espoir au bout, on a tendance à s'accrocher plus à l'espoir qu'à la douleur qui vient avant. On est bien fait, les humains, je
trouve. On est très bien fait.
Je trouve que oui.
Oui, on serait difficile à refaire.
Je trouve.
Oui, je pense. Ouais. Permettez-moi d'être égoïste un peu.
un peu. OK.
Ouais,
je te le permets, Michel, puisque j'ai ce privilège et ce pouvoir.
Et vous savez que je ne peux pas l'être qu'un peu.
j'allais dire, mais bon, puisque c'est toi qui le dis.
On a parlé de cette phrase de Léo Ferré qui a inspiré la chanson qui s'appelle
« Sous les cèdres ».
Sous les cèdres,
oui.
On ne peut pas la voir encore parce qu'il n'y a pas de vidéoclip.
Non.
Fait sur cette chanson-là.
Non.
Mais ce qu'on va faire, en regardant la pochette dont on va parler tantôt, on va écouter « Sous les cèdres » pour aller à la pause.
Allons-y. Donc.
Allons-y en écoutant.
Sous les cèdres, ça sent bon. Sous les jupons. On sait le temps est bon ami. Sous les dredons. Sous la lune, c'est la nuit, sous la fortune, l'humain sublime, et sous-dessous, il y a l'enfer, et puis l'ennui. Sous l'ennui, il y a la paresse, des jours de pluie, quelques idées. Sous la tendresse, il y a le courage des hommes. Sous la peau, il y a du sang, sous les grands mots des pères d'enfants, sous les chagrins, il y a le bonheur qui se repose. Ils mâchent la terre à leurs pieds, ils tracent des frontières pour se les disputer, ils sèchent les rivières, brûlent bois et forêts. L'été de l'hiver inverse les marées. Ils cherchent le profit sans même en profiter, se lancent des défis comme on jette les dés. Ils sèment l'injustice, récoltent la misère. Au bord du précipice, ils regardent en arrière. Bénis soient les femmes qui aiment encore les hommes.
C'en est une autre très forte.
Je regarde le clip, ouais, je me reviens. Ouais. Oui, j'aime beaucoup cette chanson-là. C'est une chanson qui me touche encore.
Pourquoi?
Parce que c'est vrai.
Ouais.
Parce que c'est vrai. Parce que les femmes nous endurent depuis longtemps, les hommes. Mais qu'est-ce que tu veux? On est là pour une raison. Puis c'est juste que la souffrance du monde vient plus des hommes que des femmes.
Êtes-vous difficile à endurer? Faudrait demander à Louise.
Ouais, non, je dois l'être souvent, mais je pense que je ne le suis pas tout le temps, en tout cas.
Avez-vous l'impression qu'en prenant de l'âge, puisqu'on en parlait un peu durant la pause publicitaire, avez-vous l'impression que vous prenez la vie mieux?
Oui, c'est clair. J'ai accepté beaucoup de choses que je refusais avant.
Comme quoi?
Je sais pas, je me bats moins avec la vie qu'avant. Avant, il fallait que je prouve quelque chose. Je me suis rendu compte avec les années que j'avais rien à prouver, que j'avais juste à profiter du voyage qui m'est offert et d'en être bien. J'ai le privilège de vivre dans un monde où on peut quand même avoir grand confort.
Ouais.
Et ce qui n'est pas donné à peu près 80% de la population de cette planète, je serais bien fou de pas en plus l'apprécier. Donc j'ai compris ça. Et maintenant je l'apprécie et j'essaie d'apprécier tout. Et ça m'a aidé beaucoup à être beaucoup plus serein avec tout ce qui est là. Ouais.
Mais ce que vous avez choisi de faire, ou enfin ce que vous faites qui vous a peut-être choisi aussi, ça a des hauts. Ça a des bas.
Mais oui.
Il y a des moments difficiles, pénibles.
La vie, c'est pas facile. C'est dur, la vie. C'est dur pour tout le monde.
Oui, mais ça, pour vous, on a l'impression que ça a déjà été terriblement dur.
Oh, non, terriblement dur. J'ai eu quelques épreuves, mais les épreuves sont là pour quelque chose. Ils nous aident à apprécier les bons moments. Si c'était toujours juste bon, ce serait plate. C'est comme manger du dessert 4 fois par jour.
Ah oh, non,
tu vois? Bon, on veut pas juste manger du dessert, là. Faut qu'il y ait des patates aussi, là. Bon, j'ai mangé ma dose de patates ou de sandwich à moutarde, comme je disais.
Claude Dubois.
Oui. Voilà.
Et le fait de traverser ça, ça fait de vous un autre auteur?
Ben, c'est certain. C'est certain que ma vision des choses s'est transformée avec les épreuves. C'est certain, oui.
Ouais.
Oui, avec le c'est certain que le voyage a fait que j'ai plus de choses à raconter.
Ouais.
Oui.
Et il n'est pas fini, le voyage.
Ben, j'espère que non. Moi, je suis prêt à l'endurer aussi longtemps qu'il est prêt à m'endurer.
Est-ce que ça vous arrive de penser à ce dernier voyage? On est bien jeune.
Oh, j'ai réglé ça quelques fois dans ma vie, puis non.
Pas les préarrangements, là.
Non. Oui, j'ai fait ma paix avec la mort. Ça fait un bon bout de temps, moi. J'y pense plus. Non, ça m'énerve.
Et ça se fait comment?
Mais ça se fait en la confrontant une couple de fois, ce qui m'est arrivé quelques fois dans ma vie, de me retrouver dans une situation où les chances de m'en sortir n'étaient pas grandes.
Comme quoi?
Écoute, je ne vais pas tout vous raconter, mais il m'est arrivé...
Pour nous faire mieux comprendre peut-être ce que vous avez traversé et ce qui fait qu'aujourd'hui...
Je vois où tu veux m'amener.
Non, vous êtes rayonnant aujourd'hui quand on vous regarde et vous nous dites que vous avez traversé des moments difficiles. Comment on le fait? Comment vous l'avez fait, vous,
personnellement? Ça se fait étonnamment tout seul. J'ai eu 2 ou 3 accidents très très proche où je sentais que mes chances de m'en sortir n'étaient pas énormes.
Une question de bactéries, entre autres.
Entre autres. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une maladie.
Ça, c'est une autre histoire.
C'est une autre histoire. J'ai eu la fameuse bactérie mangeuse de chair dont tout le monde a peur.
Ouais.
Et je ne les blâme pas parce que c'est épeurant. Quand ça nous arrive sur le corps, on dit « Oh, oh, c'est-tu mon tour? »
Ouais.
Et puis, c'est exactement ce que j'ai fait. Et
là, vous vous êtes précipité à l'hôpital.
Puis là, les intraveineuses, puis en ouais. Puis,
non, mais mettons que c'est Louise qui vous a précipité. Oui.
Et puis là, tu dis, est-ce que je vais m'en sortir, soit ici? Et je me suis rendu compte...
Avez-vous eu
peur? Non, j'ai pas eu peur.
Ah non?
J'ai pas eu peur, non. Je me suis rendu compte que j'étais prêt à mourir et puis que c'était pas vraiment si épeurant que ça, qu'on meurt facilement quand on est en paix avec soi-même.
Oui. Et avec les autres?
Et avec les autres. Et de toute façon, je me suis rendu compte que de toute façon, il n'y a rien qui change grand-chose à quoi que ce soit. Que je n'avais pas de regrets.
Ouais.
Que je n'avais pas l'impression que j'aurais dû faire des choses. Que je n'avais pas des choses que j'aurais voulu faire, que je n'avais pas encore fait. J'acceptais complètement ce verdict que la vie nous donne tous. C'est d'un jour disparaître. Et disparaître, c'est probablement une des choses qu'on fait le plus facilement au monde.
Ouais.
On a beaucoup plus peur de la chose quand on l'imagine que quand on est confronté à cette chose-là. En tout cas, c'est mon expérience. Pour l'avoir vécu 2-3 fois, je me rends compte qu'il y a une acceptation qui fait que après ça, en plus, c'est merveilleux parce qu'il y a un cadeau qui vient au bout de tout ça.
C'est
le sursis. Le sursis.
Ah, oui.
Le crémage.
Oui.
Parce que quand tu es prêt à partir et que tu pars pas,
ouais.
Ben tu dis, ah ben j'aurais pu ne pas être là aujourd'hui. Donc, c'est ça de plus. Et puis, enfin, tout ce qui vient après, c'est comme un cadeau, un sursis.
Et les jours où ça va mal, c'est ce qui vous remonte?
Ah oui, je pense, oui, certainement. Ça m'aide énormément, en tout cas, à prendre la vie du bon œil.
Ouais.
Oui.
Il paraît qu'il ne faut pas il ne faut pas vous approcher trop d'un bateau, d'un avion, vous n'avez pas eu de malchance.
J'ai presque tombé en avion l'année passée, mais ça, sais-tu, ça a fait tout le contraire.
C'est-à-dire?
Avant, j'avais peur d'embarquer sur un avion.
Ouais.
À partir du moment où l'avion est presque tombé, j'ai plus eu peur. J'ai dit, je m'en fous, ça fait pas mal tomber en avion. Je me suis rendu compte que c'est pas épeurant pantoute.
On peut rien faire.
On peut rien faire. On est pris là, puis on dit, bon, ben c'est maintenant. Et puis j'ai remarqué que j'étais pas le seul. Hein. C'est pas comme quelque chose qui m'a été donné à moi tout seul. J'étais entouré de beaucoup de monde.
Ouais.
Et les films américains où tout le monde crie, là, oublie ça, c'est pas vrai. Tout le monde est d'une sérénité, d'un calme extraordinaire.
Ouais.
Il y avait de la paix sur cet avion-là. Et je sentais que tout le monde était
serein.
Ouais. Et tout le monde acceptait que l'avion allait peut-être tomber. Et il n'y avait personne qui criait, puis il n'y avait personne qui paniquait. Donc, les films d'Hollywood, là, ils nous racontent de la foutaise.
Ouais. Je ne veux pas tomber dans le voyeurisme, là, mais ça s'est passé où? Ça s'est passé à quel moment? Vous partiez en vacances?
Non, j'arrivais, je partais de Paris, et puis on a frappé un gros troupeau d'oiseaux en démarrant. En partant, on était pas très haut de la terre. Et puis l'avion a commencé à redescendre et puis j'ai senti que c'était pas, j'aimais pas du tout ce qui se passait.
Mm-hmm.
C'était vraiment très énervant. Mais à partir du moment où j'ai comme consenti que peut-être que, on dirait, c'est parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais quelque chose de vraiment étonnant et de très bien.
Une espèce de soumission à la situation.
Oui, comme une acceptation rapide. Comme tu veux pas perdre ton temps, tu dis bon, il me reste peut-être 5 minutes ou 10 minutes à vivre. Voyons voir ce que ça donne. Et il y a comme un état de laisser aller, d'acceptation, en tout cas moi. Et j'ai senti que tout le monde autour de moi faisait la même chose. Autant les enfants, parce qu'il y avait des enfants et tout. Et la seule personne qui a semblé réagir fort à la fin, c'était un père qui était avec ses 2 enfants.
Ouais.
Qui, quand l'avion a finalement atterri, j'ai senti qu'il y avait un petit peu de panique chez le père. Parce qu'il y avait ses 2 enfants, puis peut-être qu'il n'avait pas envie de les soumettre à quelque chose comme ça. Il se sentait peut-être un peu responsable de les avoir amenés en avion.
Ouais.
C'est la seule émotion forte que j'ai sentie, parce que tous les autres passagers, non seulement sont sortis de l'avion calmement,
mm-hmm.
mais ont rembarqué 2 heures plus tard sur un autre avion, parce que celui-là n'était pas en état de partir,
mm-hmm.
sans problème. Et il y avait comme une... On y va. No problem.
Et pour vous, c'était la même chose.
Pareil.
Vous qui aviez eu peur.
J'ai plus peur en avion.
Terminé.
Je prends l'avion maintenant, je dis, ça fait pas mal.
Le bateau.
Le bateau, j'ai eu une vraie peur parce que je travaillais sur un bateau quand j'étais plus jeune et c'était un bateau qui était plein d'essence. On s'en allait livrer de l'essence à Baie-Comeau. Je sais pas, mais un gros bateau, là, 400 pieds, là,
une
mais
bombe,
de l'essence.
Une bombe.
Un Molotov, cocktail Molotov, grand format.
Oui.
Et on s'est fait frapper par un bateau. un autre bateau et l'essence s'est déversée dans le fleuve et il y avait de l'essence. Et pourquoi ça n'a pas explosé? Je ne sais pas.
À la hauteur de
l'Hélocoude,
à peu près. Ouais.
Et pendant 10 minutes, 15 minutes, le bateau était entouré d'une mare d'essence. Et la moindre petite flamèche, parce qu'on était tous un peu groggy à cause de l'essence.
Ouais.
Et l'ingénieur en chef nous disait de pas bouger, parce que la moindre flamèche faisait sauter tout. Et j'essayais d'imaginer ce qui se passerait si le feu partait là-dedans. On sauterait dans l'eau, mais la mer serait en feu, on sortirait. Je me souviens d'avoir été encore une fois très calme et d'avoir accepté ça. Et je me suis dit, probablement, nos chers soldats, quand ils débarquaient en Normandie, dans l'enfer sur Terre, devaient avoir cette sérénité. Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen de confronter une situation comme ça que comme ça. Et je pense qu'on est fait comme ça.
Et ça aussi, c'est relativement récent.
Non, ça fait longtemps.
Ça fait longtemps?
Ça, j'étais bien jeune.
Oui, mais pas le bateau, mais l'avion.
L'avion, c'est l'an dernier.
L'an dernier, ça, oui. C'est plus récent.
Oui, ça, c'est très récent. J'ai eu deux belles confrontations dans la même année.
Ouais.
Ce qui a pu... J'ai pu avoir une première où j'ai dit, c'est pas vrai, ça s'est pas passé, ça, comme ça. Et la deuxième où je me dis, ben oui, ça confirme ma théorie que c'est pas si difficile que ça mourir.
Est-ce qu'après coup, là, quand vous êtes rentré chez vous et que vous retrouvez votre quotidien et tout ça, est-ce que deux ou trois jours après, il n'y a pas une peur, une réaction à retardement?
Non,
suite à
c'est
ça?
Un high extraordinaire.
Ah ouais?
Off.
Le bonheur d'être vivant?
C'est le bonheur d'être vivant et surtout je sais pas, la tension de vivre. Tu sais, chaque jour, on confronte chaque journée. Je me lève, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est essoufflant.
Ouais, ouais.
Et là, tout d'un coup, tu te rends compte que tu pourrais ne pas être là. Et il y a comme un sursis extraordinaire. J'ai connu un high, je sais pas c'est quoi le mot, c'était un bien-être.
Ouais,
un bien-être,
ouais, bien-être
extraordinaire être. Que j'aurais donc aimé que ça dure plus longtemps.
Ouais.
Parce que la vie finit toujours par nous rattraper puis nous ramener dans les dédales de gagner sa vie puis de refaire. Mais j'ai gardé quand même ce bien-être. Je me suis accroché à ça parce que je sais que c'est ça, c'est là qu'est la vérité.
Ouais, mais là aujourd'hui, vous êtes
puis je suis pas quelqu'un de religieux, moi. Je suis pas bouddhiste, je suis pas religieux, je suis pas.
Pas de spiritualité.
J'ai pas de spiritualité.
Est-ce que vous êtes athée?
Je sais pas. Je pense pas que je suis athée parce que j'ai quand même une grande confiance dans quelque chose. Je sais pas c'est quoi. Puis je pense que
quelque chose plus grand, plus haut.
Je crois parce que on n'est pas là pour rien. Bach n'existe pas par hasard.
Non.
Mais bon, je ne crois pas nécessairement dans l'âme ou le ciel ou l'enfer. Et ça ne m'empêche pas d'être très heureux, de ne pas avoir peur pour autant.
Croyez-vous aux punitions? Vous savez, on disait tantôt, on est à peu près du même âge, là, vous
oui.
êtes plus jeune.
Oui.
Mais on est de la même génération d'éducation.
Oui. Oui.
Quand nos parents nous élevait avec « c'est ça que t'as un nez pour un petit pain
ouais. ».
Ou encore « quand ça va bien, ça ne durera pas, c'est bien, il va arriver quelque chose
oui. ».
Avez-vous été élevé dans cette mentalité-là?
Oui, mais je m'en suis guéri.
Guéri?
Guéri, oui. Non, je ne crois pas dans le bien et le mal.
Mm.
Je crois en l'amour, je crois en la politesse, je crois en l'égard et la bonté envers nos humains, parce qu'on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Je crois au partage, ce sont des choses, pour moi, des vraies valeurs.
Ouais.
Mais le bien et le mal, pour moi, n'existent pas. Même quelqu'un aussi méchant qu'Hitler, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas choisi ses parents, qui n'a pas choisi son éducation, qui n'a pas choisi tout ce qui a fait que, pauvre bonhomme, un jour, il s'est ramassé un bourreau et un tyran énorme. Mais est-ce qu'il en était vraiment responsable? Est-ce que c'était la force du mal? Je pense pas. Je pense que ce sont des psychopathes qui héritent d'un bagage génétique sur lequel ils n'ont aucun contrôle.
Je pense qu'on n'aura pas le temps de le psychanalyser.
On ne fera pas de la philosophie de Bécosse plus longtemps.
Non. Vous n'êtes pas quelqu'un d'agressif, vous?
Ben, ça dépend.
Bon, alors...
Touchez pas à mes enfants.
Oh non.
Parce que vous verriez, je deviendrais assez agressif.
Non, c'est juste pour être certain. C'est parce qu'on va évidemment vous présenter
non,
quelque chose.
Non, vous n'allez pas avoir peur pour les verbes.
Et on va à la pause.
D'accord.
On en parlera au retour, si vous le désirez. OK?
Je regarde.
Moi aussi. J'écoute. On n'entend pas et pourtant c'est ce qu'il y avait de mieux.
J'ai un fils écrasé par les temples à finances où il ne peut entrer et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir. J'ai un fils dépouillé comme le fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays. Il ne lui reste plus que sa belle vue sur le fleuve et sa langue maternelle qu'on ne reconnaît pas.
De traces, un petit filet d'huile aux couleurs d'arc-en-ciel.
C'est le lancement.
Oui.
Qui a eu lieu il y a combien de temps? C'est récent.
La semaine dernière.
La semaine dernière.
Le 26.
Ouais.
Le 26 février.
Et jusqu'à maintenant, les réactions. Parce que vous m'avez déjà dit que vous avez de la difficulté avec les critiques. Alors, maintenant...
C'est certain que j'ai des difficultés avec les critiques. Un cuisinier, quand il prépare un plat avec amour, avec le bonheur de son client en tête, ouais, et que le client dit c'est pas bon, y a-tu quelqu'un de plus déçu que le cuisinier? Moi, c'est pareil, je fais ces disques-là avec le plaisir et le bonheur de ceux qui vont les écouter en tête et à cœur.
Ouais.
Donc, si jamais je vois une critique, surtout, souvent, parfois, je dis pas complètement juste, qui n'ont pas pris le temps d'écouter comme il faut, qui font des commentaires qui sont pas pertinents, c'est certain que ça me dérange.
Ou qui ne font que démolir. Pour démolir.
Moi, je pense qu'on peut dire qu'on n'a pas aimé. J'exige pas que tout le monde aime ce que je fais, mais que de là à démolir, non. Non.
Comment s'est établie la collaboration avec Alexis Dufresne, qui, soit dit en passant, est le fils de Louise Forestier et du regretté journaliste Jean-Yves Dufresne?
Oui.
Comment cette collaboration-là s'est établie?
Ça a commencé il y a presque 12 ans. Alexis était un jeune homme à l'époque, il avait un petit peu plus de 20 ans. Et il a travaillé avec moi sur la réalisation de l'album de sa mère, Louise.
Ah, oui.
Forestier chante Louise. Et j'avais déjà découvert un jeune homme avec beaucoup de talent. Et il est parti à Los Angeles après, travailler pendant plusieurs années, réaliser des projets là-bas. Il était revenu à Montréal en février dernier, quand je cherchais un réalisateur, et je lui ai proposé, je lui ai dit, Alexis, on essaie de travailler ensemble, on va voir ce que ça donne, et puis si jamais ça marche pas, mais ça marchera pas, on sera pas pire amis. Eh bien, écoute, on a fait huit mois ensemble, je pense que c'est le meilleur travail qu'on ait fait, que j'ai fait, moi, en tout cas.
Est-ce que je peux vous faire une prédiction dans ma boule de cristal à l'usine?
Oui, allez-y.
Ça va marcher.
Écoute, il n'y a rien qui me ferait plus plaisir.
Et à moi aussi.
Merci.
Parce que je vous ai dit que je vous en devais une pour la chanson que vous m'avez offerte. Alors, je vous offre une prévision.
Votre boule de cristal.
Ça va marcher.
Merci, Michel. J'espère que je te donnerai raison à ta, peut-être, je ne sais pas moi, ta 2300e émission.
Peut-être.